Eh ben merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu ni maître et Urbi comme Urbi, sans publicité de nos sponsors. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie Limon Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi à 13h au samedi, tous les après-midi. C'est entre République et Fille du Calme. On est bien sûr Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, avec bien sûr à la technique aux manettes Monique. Bonjour Monique, heureusement que je suis là et que je pense à tout Monique, je tenais, c'est un private joke entre elle et moi, on n'en parlera pas. Bon bonjour, c'est un plaisir Daniel Chocron, à Prague sur les traces de Kafka.
Oui.
Malheureusement on n'a pas Marinette de l'année.
Non.
Voilà.
Je vais essayer de...
J'espère qu'elle nous écoute peut-être,
oui,
non ?
Oui, je lui ai dit d'écouter.
D'accord. Moi, j'aurais bien aimé la voir, parce que j'aurais une conversation un peu spéciale. Avec vous, on peut la voir. Hein.
Oui.
Et sur le jardin des Finzi Contini.
Oui, bien sûr.
Hein,
oui,
voilà,
oui.
Voilà, c'est quand même Giorgio Bassani. Hein,
exactement. Voilà. Oui.
Vous avez vu son travail qu'elle a fait dessus ?
Oui. J'ai vu le travail de Marinette, qui est plutôt orienté vers... Louise Michel.
D'accord.
C'est une spécialiste de Louise Michel et elle a sorti dernièrement un livre sur le bagne où est allée Louise Michel en Nouvelle-Calédonie.
D'accord. En photo ?
En photo et en texte, les deux.
En photo et en texte, d'accord. Oui. D'accord. Vous qui êtes un critique de cinéma ou professeur de cinéma,
historien du cinéma.
Il y a quand même un beau film qui a été fait.
Le dernier film de Vittorio De Sica en 1974.
Une merveille ?
Une merveille, oui. C'est un très beau film. Qui parle d'une chose assez peu connue, c'est effectivement le statut des Juifs en Italie.
Voilà.
On en parle assez peu, et l'antisémitisme qui s'est prononcé vers la fin du fascisme.
Donc on va le dire rapidement, à faire une parenthèse en ouvrant cette émission. Il y avait un ghetto à Ferrare.
Oui.
Il y a eu un ghetto à Venise, mais qui était antique. Très ancien. Il y a aussi un ghetto à Rome.
Exactement.
Je ne sais pas si vous le connaissez, ghetto à Rome. J'ai envie de dire, attention, mes propos au niveau architectural, c'est très beau.
C'est très beau.
Parce qu'il est coincé entre deux. Théâtre de Marseille, et c'est vraiment...
C'est vrai.
Voilà. Et donc j'aurais bien voulu parler du travail qu'elle a fait sur les Finzi Contini, avec ce personnage Mikols, qui est mythique. Hein, ça, c'est absolument mythique.
Oui.
Ça va pas aller très bien entre vous et moi, parce que nous en passons pour la même femme.
Ah oui.
Vous savez laquelle ?
Oui.
Musidora.
Musidora. Ah oui.
Voilà, Musidora. Alors là.
Vous aussi, vous êtes.
Et vous aussi, oui. Alors là, on va pas se battre, parce que je vous dis pourquoi on va pas se battre, parce qu'on doit pas être les seuls. Hein.
Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a les amis de Musidora qui existent, et qui font un gros travail pour. Notamment avec la Cinémathèque, il y a eu quelques films qui ont été restaurés, qui ont été présentés, je crois que c'était en janvier 2021. Mmh. Et c'était vraiment une belle. De bons moments. Ils passent souvent des films de Musidora. Avec la Fondation Pathé aussi, Avenue des Gobelins. Et effectivement, bon, il y a des aficionados de
mais j'en suis, vous aussi.
Moi, j'ai écrit un livre sur elle plutôt, et avec un ami qui était également dessinateur, qui a fait des aphorismes, des haïkus. Et on a reproduit aussi des choses assez intéressantes, qui sont les nouvelles et les poèmes de Musidora.
Qui était inédit,
ou en tout cas qu'on ne connaissait pas.
Parce que lorsqu'on regarde, elle s'achève très tard, parce qu'elle meurt en 57, c'est ça ?
57 à la Cinémathèque.
Elle meurt comme ça. Et on voit qu'elle a eu cette gloire avec les vampires, elle a eu le droit avec Irma Vep et tout ça, Judex, Feuillade. Et bien, elle continue après.
Oui, elle continue un petit peu après. Alors, il faut dire que sa carrière cinématographique va encore continuer encore 2-3 ans. Après, elle va arrêter. Après avoir été élue reine du cinéma sur les grands boulevards où les Parisiens étaient venus l'acclamer, elle était sur un grand cheval et tout. Et entre-temps, il s'est passé qu'elle est partie en Espagne. Et elle a tourné des films en Espagne, pas que, mais en Espagne aussi, avec son ami de l'époque, qui était un torero très, très célèbre, qui l'a un peu initié, comme Feuillade d'ailleurs, qui était un aficionado de corrida. Elle est devenue torera d'ailleurs, Musidora. Et ensuite, elle est revenue en France, où elle s'est pratiquement retirée. Elle a fondé une famille, elle a eu un enfant, que j'ai un peu connu. Et ensuite, elle a travaillé chez elle, faisant des poèmes, des nouvelles. Elle a écrit une pièce de théâtre sur George Sand. Et de temps en temps, pour améliorer un peu le quotidien, parce qu'elle va se séparer de son mari, elle va refaire un peu de revue, de théâtre, sans beaucoup de succès, avec des tournées un peu miteuses. Et c'est en 1942 que Henri Langlois le grand Langlois, qu'on s'en a appelé, qui est président, qui est directeur de la Cinémathèque, qui travaillait avec Lotte Eisner, qui était une grande spécialiste de l'expressionnisme allemand et surtout de Murnau, va l'engager pour un travail sur Feuillade au départ, comme elle a connu et travaillé beaucoup avec Feuillade, puisqu'elle a fait 40 films avec Feuillade. Donc, Langlois lui demande de travailler sur la vie et l'œuvre de Feuillade, et après ça, il va l'engager. Et entre 42 et 57, elle va participer à la Cinémathèque, aux travaux de la Cinémathèque. Elle va organiser des rétrospectives, notamment celle d'Alice Guy, la première femme cinéaste. Voilà, et elle meurt à son bureau, d'ailleurs.
Elle est superbe quand on la regarde au niveau physique. Oui. Elle a un côté potelé. Oui. C'est une des premières stars. Oui. C'est quasiment une des premières stars.
Des peintres l'ont peint.
Les peintres l'ont peint. Et Breton lui écrit, Desnos lui écrit. C'est vraiment la première star, la première star du cinéma.
Oui. Alors que sa voix n'était pas du tout celle de Sophie. Elle avait une voix un petit peu... Oui, je l'ai entendue dans une émission qui a eu lieu sur France Culture avec un des autres auteurs de Musidora qui s'appelle Casal, Patrick Casal, et qui avait, dans l'émission, on entendait la voix de Musidora dans les années 40 ou début 50. Elle avait une voix un petit peu nasillarde.
Petite parenthèse, elle était amie avec Colette, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu la voix de Colette.
Oui, aussi.
C'est redoutable.
Elle prononce les R. En tant que bourguignonne, en bonne
bourguignonne. Donc, c'était un livre qui est publié où ça?
Alors, à Lucas des Écrivains également.
Oui. Et c'est sorti ou pas?
C'est sorti, oui, c'est
d'accord.
Sorti.
Et c'est quoi le titre?
Ça s'appelle Moi, Musidora, Reine du Cinéma.
D'accord, ben voilà, Lucarne des Écrivains. Bon, on donnera les références tout à l'heure, nous on n'oubliera pas là. Bon, on est là pour travailler. À Prague, sur les traces de Kafka, toujours à la Lucarne des Écrivains, Marinette Delannay et Daniel Chocron. Alors c'est très drôle, vous allez délayer ce que je vais vous dire, comment je l'ai lu. Hein, puis on va descendre dans Prague, on va descendre dans Kafka. Ça m'a donné la même impression, c'est pour ça que j'aurais bien voulu que Marinette soit là, que les Finzi continuent. Vous allez voir, vous voulez voir ce que je vais vous dire. C'est une promenade, la promenade est légère, et on s'aperçoit que le drame, la tragédie est là. Aussi bien du côté de Giorgio Bassani que du côté de Kafka. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je me suis aperçu que, je vous le disais hors antenne, que les dates coïncidaient avec celles de Rainer Maria Rilke. Rilke est né en 75, Kafka en...
1883.
Il y en a un qui meurt, Kafka est mort en 24, l'autre en 25, Kafka de tuberculose.
C'est ça.
Et Rilke de leucémie. Et on s'aperçoit qu'ils ont le même point de départ.
Ça.
Et le destin ne peut pas être le même, même si au niveau physique, ils meurent de jeunes tous les deux, ça ne peut pas être la même chose. Rilke choisit une voie, en fin de compte, qui est très aristocratique.
Bien sûr.
Hein, et Kafka, lui, il y a ce côté noir qui le tire.
Oui, c'est un peu ça.
Allez-y.
Alors, moi, je pense que Kafka, on l'a un peu aussi mal interprété. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, avec ses amis, était très, très solaire. Hein. Il adorait nager, par exemple. Il adorait s'amuser, il allait pas les lupanars, mais on pourrait dire des music halls à Prague, et il adorait chanter. Il aimait bien les prostituées aussi, hein, faut pas oublier. Et c'est seulement dans son rapport à la femme aimée que Kafka est vraiment singulier. Mais sinon, c'était un homme, paraît-il, très, très drôle, très sympathique, très... Il y a une fameuse anecdote que je raconte dans le livre sur la petite fille, je ne sais pas si vous la connaissez, de la petite fille. Kafka sort de son bureau, parce qu'il travaillait, vous savez, comme agent d'assurance. Il travaillait le matin pour pouvoir avoir l'après-midi de libre, et travaillait le soir. Et donc, vers les 1h, 2h de l'après-midi, il rentre, il prenait toujours le même chemin pour rentrer chez lui, et donc il traversait un parc. À un moment donné, il s'assoit dans ce parc, il prend le frais, et il y a une petite fille en larmes, littéralement en larmes, qui pleure, et qui s'assoit, qui s'approche de lui, et Kafka lui fait signe d'avancer vers lui. Alors, la petite fille s'avance, elle dit, qu'est-ce qui t'arrive, petite fille? Alors, elle lui dit, écoutez, j'ai perdu ma poupée a disparu, etc. Et peut-être qu'on me l'a volée, peut-être que je l'ai perdue, mais je peux pas vivre sans ma poupée. Et Kafka va imaginer pendant 3 semaines une histoire extraordinaire qui fait que vraiment, c'est vraiment l'écrivain type par excellence, c'est-à-dire qu'il va dire, mais non, elle n'est pas perdue, elle m'a écrit. Et donc, il va inventer une sorte de fausse correspondance que la petite poupée partie ailleurs lui avait écrit pendant 3 semaines jusqu'au moment où la petite fille oublie la poupée.
C'est génial. C'est publié, ça ?
Il y a eu un livre qui a été fait là-dessus. Et moi, j'en parle un peu dans mon livre aussi, de cette petite fille.
Alors, une histoire, c'est pas une petite fille, mais c'est un jeune homme qui dit Kafka, à qui j'ai dit que je faisais l'émission aujourd'hui. Là. Donc, il a lu Kafka. Et quand on a parlé de la biographie, Et c'est très drôle. Alors, est-ce que ça vient de sa lecture, de son intuition ou d'une erreur? Il a déplacé Kafka. Oui. Il l'a fait mourir dans les années 40 et quelques. Et tout ça parce qu'en fin de compte, je réitère qu'il y a chez Kafka, il y a la métamorphose. Oui. Il s'est métamorphosé en bête. Il a travaillé sur l'administration. L'administration beaucoup, nazie, oui. Ça va être quelque chose là. Il va cultiver sa judéité assez profondément. Donc, il apparaît comme une proie extrêmement facile.
S'il n'avait pas été atteint de tuberculose et mort en 24, il aurait fini comme sa famille, en tout cas ses trois sœurs, qui sont mortes à Auschwitz. Donc, en tant que juif, il n'aurait eu aucune chance, il serait mort très vite. En tant que personne un peu valétudinaire, un peu fragile, il serait mort très très vite dans les camps de la mort, dans les concentrations nazies. Mais Kafka était effectivement... Il écrivait en allemand, comme on le sait.
Ah oui, c'est ça. On va commencer par là, Daniel. C'est-à-dire que c'est un déchirement total, parce qu'au départ, la langue... C'est quoi sa langue?
Sa langue, c'est l'allemand. Ça a toujours été l'allemand.
C'est ce qu'il a appris à l'école?
Oui, et il est doublement minoritaire. En tant que juif, et en tant que, justement, personne parlant en allemand, qui est une communauté un peu à part, dont la Tchécoslovaquie, qui parle évidemment tchèque.
Hein, voilà. Son père parle tchèque, sa mère parle yiddish. Et
un petit peu allemand aussi.
C'est-à-dire, rien qu'au départ, c'est-à-dire que c'est une déchirure de langue.
Exactement. Mais lui choisit l'allemand, parce que d'ailleurs, il paraît qu'il ne parlait pas très bien tchèque, à tel point que Milena Jezinska, qui a été la journaliste importante qu'on a connue, la résistance, la féministe, qui a été très amoureuse de Kafka, lui envoie une lettre en disant « J'ai lu une de vos nouvelles, je crois que c'était une description d'un combat, en disant « C'est une chose merveilleuse, extraordinaire, j'aimerais la traduire en tchèque. » Et elle lui dit « Est-ce que vous acceptez ?» Kafka, très flatté, accepte, ils se rencontrent, et c'est là où on voit que Kafka parlait pas très bien tchèque. Il parlait évidemment, mais pas très bien. C'était pas sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'est l'allemand.
Il écrit en quelle langue alors?
En allemand.
En allemand jusqu'au bout. Hein. En allemand, c'est ça.
Ouais. Voilà. Alors, par rapport à d'autres grands auteurs de cette époque et un peu plus tardivement que Thomas Mann, par exemple, la langue de Kafka est assez pauvre, mais elle est très riche d'évocations. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est très, très riche au niveau des images, du rapport au rêve, au cauchemar, etc. C'est extraordinaire.
Moi, elle m'apparaît, c'est pas le pauvre, hein. Ouais. Moi, c'est le mot simple, liminaire.
Blanche, peut-être.
Voilà. Comment?
Blanche, peut-être.
Blanche, c'est ça. Il y a une neutralité dans la langue de Kafka qui en rajoute. Rajoute à ce qu'il a été, c'est-à-dire
bien sûr,
ça en rajoute, parce qu'il n'y a pas le lyrisme d'un Thomas Mann.
Il n'y a pas le lyrisme. C'est pas une langue fleurie.
D'un Thomas Mann. Petite parenthèse, tout le travail de Marinette, c'est des photos argentiques.
Argentiques. Elle est partie à Prague à deux ou trois reprises. Elle a fait différents voyages. Et donc, elle a ramené toutes ces photos qu'on voit dans le livre. Il y en a plus d'une centaine, où on voit justement les différents lieux que Kafka fréquentait, l'université, les différentes maisons qu'il habitait. Parce qu'à chaque fois que son père, qui était un commerçant, avait de plus en plus d'importance et réussissait de mieux en mieux, eh bien, il changeait de maison. Il prenait une maison plus grande. Donc, il a fait 4 ou 5 maisons. Kafka a toujours vécu avec ses parents, sauf la dernière année où il a vécu à Berlin avec sa dernière bien-aimée, Dora Diamant. Mais la plupart du temps, il a vécu avec ses parents. Donc, à chaque fois, il avait une chambre différente, etc. Donc, quand on dit, quand on va voir en Tchécoslovaquie, et qu'on chez qui maintenant, et qu'on va voir la maison de Kafka, c'est une des maisons de Kafka. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Voilà.
D'accord. Et donc, ce Prague qui nous est présenté, en même temps, ça nous apparaît extrêmement... je parle de l'année de Kafka. Extrêmement art déco, moderne, etc. Et en même temps, extrêmement... pas moyenâgeux, mais dans la tradition, dans la tradition.
Alors, il ne faut pas oublier aussi que Kafka était victime d'antisémitisme.
Voilà, on va le faire. Je vous propose simplement d'écouter Reggiani.
Ah.
Voilà, on est cohérent sur Radio Liberté 89.4. Merci Monique, et on plonge après sur tout ça.
Avec plaisir.
Voilà.
Comme quoi il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? D'amour? De vertu? À votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas l'esclave martyrisé du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise.
Choquant, je vous laisse commenter. Hein.
Ah oui, non, mais c'est Reggiani, c'est une voix extraordinaire, un immense conteur, un grand acteur.
De Baudelaire. Hein.
Oui, oui, c'est un acteur. Il a dit des choses. Quand il dit Le Dormeur du Val de Rimbaud, c'est aussi merveilleux. Il avait un phrasé, une manière de dire, c'était fantastique.
Donc on est à Prague sur les traces de Kafka. Donc on se demande si c'est le plus important, c'est Prague ou Kafka, ou c'est indissociable dans votre livre.
Dans mon livre, c'est indissociable.
C'est indissociable. Et comme Kafka est indissociable de Prague.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc c'est vraiment une histoire d'amour-haine.
Il sort un petit peu de Prague.
Oui,
il va à Berlin, il va en Italie.
Il voyage avec son ami Max Brod.
Avec Max Brod, il voyage quand même, mais il est indissociable de Prague.
Exactement. Il est même venu à Paris.
Voilà.
Et il est allé au Gaumont Palace.
D'accord. C'est bien parce que là, on y arrive là. C'est-à-dire que ça apparaît comme ça et brusquement on tombe dans une modernité.
Oui,
vous n'avez pas pu vous empêcher de faire un passage sur le cinéma.
Voilà, c'était pas très fréquent. On ne parlait pas beaucoup de Kafka avec l'art. Voilà. Il a commencé à voir les films muets. Bon, il faut dire qu'il a connu l'expressionnisme allemand, pratiquement, même s'il a arrêté d'aller au cinéma à ce moment-là. Mais il a connu des films pré-expressionnistes, avec des acteurs. Il adorait les acteurs.
Qu'est-ce qui passe ? Paps ? Des gens comme
ça ? Non, c'est pas connu du tout du public, parce que même à la Cinémathèque, on a du mal à le présenter.
Murnau, non, même pas.
Non, il a peut-être vu un ou deux Murnau, mais les premiers, quoi. Enfin, avant les grands, mais avant Nosferatu, quoi, avant 22, quoi. Donc, parce qu'à un moment donné, il est allé surtout au cinéma dans les années 1915, 1917.
Il aurait vu un film, d'après ce que vous me dites, Papa Longue Jambe.
C'est ça.
Alors, est-ce que c'est il y a eu un remake qui a été fait?
Oui, mais ça n'a rien à voir.
D'accord, c'est
avec Fred Astaire.
Il n'y a rien à voir.
Non, c'est un film très allemand qui avait beaucoup de succès. Et lui, il était très admiratif d'un acteur qui s'appelait Max Beckmann, qui était un acteur assez connu de l'expressionnisme. Et surtout, je reproduis quelques phrases, il a été adorateur de Chaplin, de Charlot. Il parle de ce personnage mécanisé, tué par l'entreprise.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté dans Chaplin, un côté kafkaïen?
Oui,
bien
sûr.
Ou alors un côté dans le Kafka.
Bien sûr. Et même
dans le personnage. Sur votre couverture, la photo de Marinette est très belle.
Oui.
C'est le fameux... c'est posé. C'est une photo posée ou pas?
Non, prise comme ça.
Prise comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est un monsieur avec un chapeau voilà, en noir. Et ça, c'est Kafka.
Voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Et donc, on voit dans ce livre, on a essayé de parler un peu de choses dont on ne parlait pas forcément ou de donner une nouvelle lecture. Par exemple, par rapport au judaïsme, le Kafka, par rapport aux femmes. On a fait en plusieurs parties comme une sorte de feuilleton. On a fait quatre parties parce qu'il y a eu quatre femmes importantes.
Parenthèse, il a fait des dessins, Kafka.
Oui, on en reproduit aussi quelques-uns.
Moi, je les trouve très bien.
Oui, ils sont très bien.
C'est pas du tout neutre, c'est pas du griffonnage.
Oui. C'est de la caricature. Hein,
oui, c'est ça, mais c'est pas du griffonnage gratuit.
Non, bien sûr. Non, c'est vraiment un personnage extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui était habité. Il disait, j'ai tellement de choses merveilleuses dans mon âme. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui a créé vraiment sans sortir de chez lui un peu. Je vais pas dire comme Proust de sa chambre, mais presque. Quoi. C'est des gens qui c'était vraiment. C'est vraiment des écrivains qui ont sacrifié leur vie à l'écriture. Quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Petite bourgeoisie?
Oui, commercial.
Petit commercial. C'est quand même un lettré.
Oui, bien sûr, hein? Oui. Il a fait des études assez... Il est docteur en droit.
Docteur en droit.
Voilà. Il a fait un peu de philosophie, un peu d'histoire de l'art aussi. Il était passionné par ça. Et c'est quelqu'un qui aimait bien les études et tout, et qui, pour faire plaisir à son père, qui va avoir un rôle...
Ça va très mal. Ça va
un
très,
rôle
très
tellement
mal.
Important et tellement dur. La lettre au père en 19, c'est ça.
Hein,
c'était terrible. Eh bien, son père, pour faire plaisir à son père, il va faire du droit et il va réussir. Il va devenir docteur en droit. On l'appelle docteur Kafka, d'ailleurs.
Docteur Kafka. Ouais. Donc, il baigne, alors ça, on va revenir un petit peu, ça, je vais vous laisser le faire. Il baigne dans ce berceau de ce qu'on a l'antisémitisme.
Oui, alors ça, c'est...
Prague est costaud, j'ai envie de dire que c'est costaud au niveau, parce que ça date pas d'hier. Hein.
Oui, bien sûr.
Allez-y, Daniel.
Il y a beaucoup d'antisémitisme à ce moment-là, et Kafka va en être victime indirectement, c'est-à-dire que souvent, quand il se mettait à sa fenêtre, il y avait des manifestations comme ça, antisémites, où les gens cassaient des vitrines des juifs. On va retrouver ça avec le nazisme, évidemment. 25 ou 30
petite
ans plus
question,
tard.
Je vous mets, oui. Petite question, je me suis posé la question. Là, dans votre livre, vous montrez que l'antisémitisme remonte très très loin oui. à Prague. C'est une tradition très, très loin.
C'est une tradition, oui.
Est-ce que cette tradition remonte aussi loin en Allemagne, à Berlin?
Oui, aussi.
Aussi,
oui,
d'accord.
Aussi,
ça,
oui,
je voulais
c'est
savoir.
Ça, c'est ça. Voilà, on peut dire que le juif est un peu le mauvais sujet, le bouc émissaire classique. Et Kafka va voir ça et il écrit. Alors lui, quand il avait quelque chose qui lui tenait à cœur, quand il ressentait une émotion qu'il ne pouvait pas contrôler, il écrivait. Et il la mettait sur le papier. Et donc, dans son journal, qui est assez passionnant, je fais une petite analyse, d'ailleurs, dans le livre, des différentes parties du journal, journal oui. Voilà, différentes phases qu'il y a sur plusieurs années. Et Kafka a beaucoup écrit dans son journal qu'il était désespéré parce qu'il craignait pas tant pour sa vie que pour la vie de ses co-religionnaires, quoi. Il disait, pourquoi est-ce qu'on en veut tant aux Juifs? Surtout que les Juifs étaient surtout des commerçants à ce moment-là, et que, bon, ils essayaient de passer complètement inaperçus, de s'assimiler, comme le père de Kafka, qui ne voulait pas du tout montrer une quelconque judéité. Il voulait vraiment être, d'ailleurs, il parlait tchèque à ses vendeurs, à ses employés. Il ne voulait pas parler allemand, il ne voulait pas, ou yiddish, il ne voulait pas se différencier. Et donc, Kafka a vécu dans une ambiance antisémite assez profonde, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de juifs dans son œuvre. Il y a très très peu de juifs.
Et c'est par contre, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'à Prague, à l'époque, vous avez une majorité tchèque.
Oui.
Vous avez ils sont trois communautés.
Voilà.
Les tchèques, les Allemands et les juifs.
Et les juifs, voilà. Et Kafka est doublement minoritaire.
Voilà, et doublement minoritaire, voilà, dès le départ.
Et il faut, comme je l'ai dit, il faut savoir que Kafka écrit en allemand.
Mmh. Dès le départ.
Ça, c'est, dès le départ, il écrit en allemand, c'est sa langue. D'ailleurs, comme Helena a voulu traduire ses nouvelles, elle lui envoie une lettre et Kafka a eu du mal à la déchiffrer. Parce que
il est témoin de manifestations antisémites
oui,
ou pas
oui, 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 il est témoin. Il voit, par exemple, des gens qui rentrent dans des magasins juifs et qui cassent les vitrines et qui dérobent tout ce qu'il y a et qui molestent les vendeurs.
Mais Daniel, ça c'est précurseur de ce qui s'est passé à Berlin.
On peut le dire.
Ainsi, c'est ça qui est très surprenant dans votre livre, parce que oui, parce que si on regarde la chronologie de l'Allemagne, mais on arrondit, hein, 1933,
oui.
Mais juste avant les années 25, 26, 27, c'est plutôt une république douce.
Oui, oui, c'est ça, oui, Weimar, quoi.
Weimar, c'est doux,
oui. C'est très culturel, il y a beaucoup de culture, oui, c'est ça, c'est un peu différent. Oui, oui, c'est ça. Ceci dit, beaucoup de gens de Weimar ont collaboré après avec Hitler, hein, ça, il ne faut pas l'oublier non plus, et ça, c'est quand même assez terrible. Mais sinon, oui, alors Kafka, lui, va très vite. Il s'intéressait à l'actualité, mais générale, pas forcément politique après. Il s'intéressait, il lisait les journaux, il était abonné, et très vite, il y a eu un effet, pour lui, quelque chose de très profond qui va être le sionisme.
Voilà, le sionisme. Voilà, ça on va en parler. Petite parenthèse sur Public Sénat, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne,
bien, oui.
C'est très intéressant, oui. C'est une chaîne, il y a des chaînes historiques, et il y avait hier un film sur les Juifs d'Algérie.
Ah, intéressant.
Si vous pouvez le repiquer, c'est très intéressant, savoir que les pétinistes, les Français, n'ont rien à envier à qui que ce soit par rapport à l'antisémitisme.
Bien sûr.
Ça a été vraiment une crapulerie, avec le rapport, je ne sais pas si vous inspire, le rapport Crémieux, etc.
Bien sûr.
C'est une crapulerie à tous les niveaux.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
Ça, il faut
bien
dire.
Il y a une
dire.
Fraternité de l'antisémitisme.
Oui, c'est ça.
Dire.
Oui, oui, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Donc il a 20, 22 ans. Il fréquente la Prague intellectuelle.
Oui. Alors ça c'est très important. Dans mon livre, je parle justement d'un chapitre parce que le livre est bourré de beaucoup d'anecdotes, mais je fais des chapitres assez courts ou plus ou moins courts sur des parties intéressantes, comme par exemple l'école de Prague, par exemple, qui est une école artistique de Prague, avec les cafés. Alors les cafés pragois sont très importants. Il y a le café moderne, il y a le café Moderna, le café Arco, etc., où Kafka venait lire ses nouvelles devant un public composé de ses amis la plupart du temps, mais aussi d'autres d'amis, et il était là, debout, comme ça, prenant son texte à pleine main et le lisant. Et lui, par exemple, La Métamorphose, c'est une des plus belles nouvelles qui ait jamais été écrite, quelque chose d'extraordinaire, de vertigineux, et bien lui, quand il lisait cette nouvelle, il la lisait de manière drôle, il riait. Il disait « Riez donc à cela ». Alors que quand on le lit, on n'a pas forcément tout de suite envie de rire. Bon, peut-être, mais en tout cas pas tout le monde. Et lui, il riait quand il lisait ses nouvelles. C'est terrible, hein, c'est terrible. Alors qu'on a une vision de Kafka très noire, très sombre.
Oui, au niveau de l'humour, il figure dans l'anthologie de l'humour noir d'André Breton.
Voilà, aussi.
Et Breton, si on a le temps, je lirai ce qu'il en raconte. Il en parle très bien.
Oui, il en parle très bien.
Effectivement, la métamorphose, on peut dire deux mots, j'allais dire deux mots, bien, bon lapsus. On peut dire deux mots de la métamorphose, vite
oui,
fait.
Oui. alors c'est un livre, enfin c'est une nouvelle d'une 90 pages à peu près. Qui est une des, je crois que c'est la nouvelle la plus célèbre de Kafka, qui est mondialement connue, avec ce personnage de petit employé, représentant de commerce, qui s'appelle Grégoire Samsa, qui un jour, le matin, se lève en étant un cancrelat. Bon, rien n'y... La veille, s'était endormi normalement, et là, en se levant pour aller à travail, il se découvre cancrelat. Il y a des descriptions dans ce texte absolument phénoménales du rapport homme-animal, quoi. C'est-à-dire qu'il décrit les ailes qui lui poussent, son corps qui se métamorphose. Et ce qui est extraordinaire dans cette nouvelle, c'est que la famille, plutôt que de l'aider, au lieu de le soutenir et de faire tout pour sortir de cette mésaventure, ils vont l'enferrer, ils vont l'insulter, et même à la fin, bon, je ne crois pas que je dévoile quoi que ce soit, ils vont le tuer. Donc, et à la fin, la toute dernière partie de la nouvelle, c'est la famille qui se retrouve dans l'autobus. Ils viennent de tuer leur frère ou leur fils, et ils disent la journée commence bien. Bon,
ça, voilà. Alors ça c'est génial, ça.
Oui, ça voilà. C'est.
Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et en relevant un peu la tête, il vit bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen, sur le haut duquel la couverture prête à glisser tout à fait ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, crouillaient désespérément sous ses yeux. Voilà. Et vous en tirez quoi comme morale ?
Alors, Kafka, quand on l'interrogeait, quand ses amis lui demandaient « qu'avez-vous voulu faire avec cette nouvelle ?», alors il dit « c'est pas du tout l'histoire d'un homme qui se transforme en cafard ». Alors c'est le premier degré. Mais pour lui, c'est une sorte de règlement de compte avec les membres de sa famille. C'est-à-dire avec sa sœur, avec ses sœurs, avec son père indirectement déjà, quelques années avant la lettre au père, et avec sa mère. Donc vous voyez, c'est comme on lui voit la chose, c'est assez différent de comment nous on la voit.
Le petit monde, c'est-à-dire le petit employé,
est
toujours présent dans l'œuvre de Kafka.
Et d'ailleurs, dans la nouvelle, au début de la nouvelle, le personnage se dit « Ah, je vais être en retard ». Et pour lui, alors qu'il est un cafard, il est devenu un cafard, et pour lui, quand même, il pense encore qu'il va être en retard à son boulot. C'est quand même terrible, quoi, l'aliénation sociale.
Ça vous inspire David Nietzsche ?
Oui.
Eraserhead,
bien sûr, oui,
c'est très proche de ça.
En fait, c'est Kafka et Camus l'a beaucoup dit aussi dans L'Homme révolté. Kafka, c'est le génial, pas inventeur, mais le génial représentant de l'homme moderne, de la solitude ontologique de l'homme moderne face aux objets, aux choses, à la politique, etc.
Il écrit rapidement. Tout ça est écrit rapidement,
oui, la nouvelle, il écrivait toujours la nuit, entre 22h et 4-5h du matin.
D'accord.
Voilà. Alors il y a une nouvelle, il y a une anecdote assez célèbre, je ne sais pas si elle est vraie, mais bon, c'est assez marrant de la citer. En fait, pour une de ses nouvelles, je ne sais plus laquelle, il lui est resté plus d'encre. Et il paraît qu'il s'est coupé, et il a fini l'encre avec son sang, voyez, ce qui est possible chez Kafka. Mais peut-être que, bon, je ne sais pas, ça fait un peu beaucoup.
Il a des échos ou pas autour de lui à Prague?
Alors, il est apprécié d'un petit cénacle, notamment ses amis, mais en dehors de ses amis. Einstein va assister à une de ses conférences et à une de ses lectures. Il va dire que c'est un personnage qui l'avait beaucoup marqué par l'intensité de son expression, etc., quand il lisait et tout. C'est un homme qui était assez grand, hein, il mesurait 1m82.
Grand, maigre,
oui, très maigre, voilà. C'est ça, ascétique. Il était un végétarien, il ne mangeait pas de viande, il buvait beaucoup de lait et des légumes. Il s'alimentait principalement de ça et un peu de café. Et donc c'était quelqu'un qui était très ascétique, effectivement, et qui, toute sa vie, a eu à peu près les mêmes horaires de travail. Tous les soirs, il travaillait, sauf quand il sortait, mais à partir du moment où il n'est plus beaucoup sorti, et là il restait chez lui au retour de sortir avec ses amis, et il travaillait toute la nuit.
Pour revenir à Marinette, c'est un jeu en noir et blanc.
Oui, c'est ça. Oui,
voilà,
c'est ça.
Lui est habillé en noir, il y a un côté pâle, on joue en noir et blanc.
Oui, ça, oui.
Avant qu'on poursuive avec Serge Radjiani, on va se faire ce plaisir. Hein. Est-ce que Rilke, ils se sont rencontrés ou pas ?
Oui,
ils se sont rencontrés.
Oui, une ou deux fois, ils se sont rencontrés. Vous avez cité tout à l'heure Walter Rantaine aussi, je crois, Walter Benjamin, et ils se connaissaient beaucoup.
Ils se connaissaient.
Oui, Benjamin avait beaucoup d'admiration pour Kafka. Il disait que c'était vraiment un auteur absolument phénoménal, fondamental.
Vous êtes sûr qu'il a rencontré Rilke ?
Oui. Au moins une fois sûr.
D'accord, c'est la question que je me suis posée. Parce que vu leur promiscuité chronologique, on pourrait imaginer que les deux vont se promener dans Prague, et pourtant, ce n'est pas du tout le même monde.
Non, bien sûr.
Ce n'est pas du tout le même monde.
Non, c'est vrai.
Sur la chaise, une robe rouge. Sur la vitre, les arbres d'octobre bougent. Comme au cinéma, le décor ressemble au drame que l'on joue. Une couleur vient sur ton corps, le jour se lève sur ta joue. Je te regarde endormi, comme il fait beau sur toi, qui ne veut plus être à moi, ma femme, mon ennemi. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin, et tous les soirs, monsieur machin, fige au sap polonaise. Hôtel des voyageurs, pour t'attendrir, ça t'avérer, les fleurs du mur, comme nos amours, ont perdu leur doré. Le vent jette une abeille monte. Je voudrais que le vent de la veille sorte, qui a laissé dans cette chambre des mots qui n'allaient plus ensemble. Au cinéma, quand sont doublés des amants dans un champ de blé, ils sont aussi ridicules que nos soulas pendules. Lorsque je t'ai demandé de ne pas m'abandonner. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin, et tous les soirs, monsieur machin, qui joue sa polonaise. Hôtel des voyageurs, pour t'attendrir, ça t'a fait rire, ce sont nos dernières vacances avant l'indifférence. La comédie finit là. Ils restent ensemble et l'on applaudit pas. Comme au cinéma, les acteurs rentrent chez eux même quand ils meurent. Les fleurs du mur et nos amours tiennent malgré les déchirures. Et quand tu fais ta valise, tu y mets mes chemises. Nous n'arriverons jamais à nous quitter sur un quai. Hôtel des voyageurs, on nous a dit, même les plus tristes ressemblent à des saluts d'artistes, à des saluts d'artistes. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin, et tous les soirs, monsieur machin, qui joue sa polonaise.
Sur Radio Libertaire, et merci Monique. Donc il y a un personnage, on se l'a dit avant Serge Reggiani, là, c'est Walter Benjamin.
Oui.
Ils ont plein de points communs.
Oui, bien sûr, oui. Hein? Alors, Walter Benjamin est un personnage qui a beaucoup écrit sur Kafka, d'ailleurs. Hein. Il aimait beaucoup Kafka, et il disait l'importance du Kafka dans le roman, enfin, dans la nouvelle psychologie du roman, ou la non-psychologie du roman. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, compte beaucoup dans la connaissance de Kafka. Il a été un des premiers, vraiment... Bon, Vialat, c'est pour la traduction, on le sait en France, mais Benjamin a été assez contemporain.
Ils ont plein de points communs.
Oui, bien sûr.
Ils sont juifs tous les deux.
Bien sûr.
Ils vont avoir une interrogation sur la judéité. C'est pas des juifs qui vont accepter ça. Ils vont avoir une interrogation. Une interrogation sur la judéité. Et puis là, au niveau de la modernité, tous les deux vont. Bah ça va vous plaire. Là, ça va vous plaire. Ils se heurtent à quelque chose. C'est l'image.
Bien sûr.
Qu'elle soit le cinéma. Les deux. Hein, ou la photographie. Hein.
Oui, la photographie. Oui. En fait, Kafka et Benjamin ont découvert et ont pris. On dit souvent que le cinéma c'est l'art du XXe siècle, ce qui n'est pas faux. Et vraiment, ils ont tous les deux découvert le cinématographe. Et au moment où ils l'ont connu au moment du cinéma dit primitif, c'est-à-dire au début du cinéma, c'est-à-dire où l'art se faisait, où les codes narratifs et formels se constituaient, etc. Donc c'est intéressant, ils ont connu peut-être les plus belles années du cinéma, d'une certaine façon. C'est-à-dire le cinéma qui est en train de se créer en art. Et donc ils écrivent d'ailleurs des phrases très belles et des textes très beaux sur le cinéma.
Ça veut dire qu'ils arrivent à une époque où l'image va commencer à rentrer dans la rétine et donc la perception. Vous savez que Benjamin dit que tout a été changé. Le jour où les gens se sont trouvés l'un face à l'autre dans les transports en commun. C'est-à-dire que pour la première fois, vous voyez l'autre en face de vous.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça.
Ça c'est prodigieux là.
C'est prodigieux. Oui,
tous les deux étaient étaient juifs, de ces deux inquiets, c'était deux terribles inquiets là. Et avant de passer, puisque là, j'aimerais bien qu'on fasse plein de choses quand même, qu'on se dise plein de choses sur le phénomène de l'attirance de la Palestine pour les deux.
Oui,
il y a eu pour les deux, il y a l'Israël, la Palestine. Je vais vous lire simplement un tout petit pas, si je le retrouve, si je le retrouve, de Benjamin sur Kafka.
Ah oui, voilà. Intéressant, oui.
Il dit ceci, dans le monde de Kafka, écoutez bien, dans le monde de Kafka, la beauté n'apparaît que dans les lieux les plus cachés, par exemple chez les accusés. C'est évidemment, si j'ose dire, un phénomène d'histoire naturelle assez curieux. Ce ne peut être la faute qui les embellit, ce ne peut être non plus le juste châtiment qui d'avance les embellit. Cela ne peut donc se tenir qu'à la procédure qu'on a engagée contre eux et dont ils portent en quelque sorte le reflet.
Oui, c'est ça.
Terrible.
Laurent Rousseau, le droit, l'homme de droit.
L'homme de droit. C'est l'homme de droit. Mais en même temps, puisqu'il a écrit le procès, on peut le dire, le procès, c'est Joseph K.
Oui, c'est ça, Joseph K. Ah, oui,
on raconte vite fait Joseph K.
Alors, le procès, en fait, c'est un livre un peu tardif de son œuvre. Et c'est un livre qui, lui aussi, est inachevé, comme on pourrait dire, mais différemment. L'Amérique et le château, il manque la fin. Dans le procès, la fin, on l'a.
D'accord.
C'est au milieu qu'il manque... un chapitre, disons, mais il est à moitié inachevé. Bon, c'est celui qui est le plus complet, me semble-t-il, des trois. Et la fin, on la connaît, la mort, comme un chien, comme il est dit, du personnage de Joseph K. Donc, c'est... Oui, alors là, vraiment, le procès, c'est vraiment le livre le plus... remarquable, me semble-t-il, à la fois de l'administration qui persécute les individus,
qui broie
les êtres, sans raison d'ailleurs, parce qu'on ne donnera jamais l'explication à Joseph K. de pourquoi il est accusé.
Il n'a rien fait, c'est-à-dire que
il n'a rien fait,
je me souviens bien, on vient le chercher,
voilà,
on l'amène, il passe en procès,
c'est ça.
Et puis voilà.
Et il meurt comme un chien.
Il meurt comme un chien.
C'est ça. Donc c'est le fait que l'administration broie les individus. Quoi.
Ouais. C'était alors, quoi. À moi, papa Freud, j'ai horreur du freudisme à trois balles. Il y a une paranoïa dans tout ça.
Oui, il y a une paranoïa. Hein? Oui, on peut dire qu'il était un peu paranoïa, Kafka, bien sûr.
Il y a une paranoïa.
Mais il y a aussi un peu de vrai quand même, parce que c'est vrai que l'administration peut parfois. Sévèrement.
Il y a ça, et puis au niveau à moi, papa Freud aussi, il y a aussi son rapport à son père.
Oui, alors là. On dit deux mots, c'est très important. Alors, toute sa vie, Kafka a aimé et craint son père. Avec un climax, une apothéose, c'est 1919, donc quelques années avant sa mort, où il écrit une lettre qu'il n'enverra jamais à son destinataire, qui était son père, qui s'appelle « Lettre au père ». Il n'enverra jamais cette lettre, qui fait une centaine de pages, et qui est un texte absolument extraordinaire, y compris au niveau de la littérature. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un texte très, très important. Et dans ce texte, Kafka dit plusieurs choses. Il reprend le début, c'est-à-dire pourquoi son père ne l'a pas plus poussé vers la religion juive, pourquoi à cause de lui il a voulu fuir la religion juive, que son père était un juif assimilé, que lui il aimait les juifs qui assumaient, comme les juifs yiddish, les juifs de Pologne par exemple, avec lequel d'ailleurs, dont un membre important qui s'appelait Lowy, qui était directeur du théâtre yiddish, était venu à Prague, et Kafka est devenu très ami avec lui, à tel point que quand il est revenu 2-3 ans plus tard, Kafka a organisé une soirée dans un théâtre paraguayen pour permettre à cette troupe de pouvoir jouer. Et toute sa vie, Kafka a aimé le yiddish, a aimé la langue yiddish. Il a même fait une conférence, d'ailleurs, paraît-il assez belle, au café Arco, je crois, et à la mairie de Prague aussi, sur le yiddish. Et pour revenir à son père, il a écrit cette lettre qu'il n'a jamais envoyée, où il dit des choses terribles, où il reproche à son père beaucoup de choses, notamment pourquoi s'est-il toujours opposé à son mariage, à ses mariages, pourquoi son père ne l'a jamais considéré comme un être sensible, mais un être veule, lâche, sans mou, alors que lui, c'était quelqu'un qui revendiquait une forme de sensibilité exacerbée. Et donc, dans ce livre, qui est à la fois un règlement de compte et, en fait, un livre d'amour aussi, une nouvelle d'amour, parce qu'il aime son père, quand même, ça se sent entre les lignes. Et c'est vraiment très, très émouvant, parce que son père, qui ne saura jamais que son fils lui a écrit...
Il ne le saura jamais,
d'accord. Non. Parce que Kafka ne va jamais envoyer cette lettre. Au dernier moment, il va la mettre dans une enveloppe, il va vouloir lui donner, mais il ne le fera pas.
Est-ce qu'il lui demande la permission d'écrire?
Oui, voilà, il demande beaucoup de choses. Il dit pourquoi on est passé à côté l'un de l'autre. Bon, peut-être. Et beaucoup de gens qui ne sont pas juifs, forcément, peuvent se reconnaître dans le rapport avec leur père, je pense.
Donc vous écrivez à propos du verdict. Hein, du verdict, ah oui. C'est oui. Une nouvelle. C'est quoi le verdict?
Très grande nouvelle.
C'est une grande nouvelle. C'est souvent des nouvelles. Hein.
Oui, Kafka écrit beaucoup. D'accord. Hein. Oui.
Le verdict est un règlement de compte. Il s'agit d'une condamnation du fils par le père. L'un des deux doit tuer l'autre. Moi, voilà. Papa Freud aussi. Voilà. Hein. Le fils ne le peut. C'est donc le père qui va lui refuser le droit de vivre. C'est là, vous citez, « Je te condamne à périr noyé ».
Voilà.
C'est ça. Vous concluez, le fils est condamné à ne pouvoir vivre. L'aspect autobiographique apparaît très clairement. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le moins qu'on puisse dire, oui, c'est ça. Oui.
Il possédait très bien le yiddish ou pas?
Alors, par rapport au yiddish, il a appris la culture yiddish plus que la langue. Et par contre, il va prendre des cours d'hébreu avec le fils d'un rabbin. Ensuite, avec une professeure qui va suivre, et y compris un peu à Berlin. Il va parler relativement. Il va écrire d'ailleurs une lettre en hébreu à sa professeure pour montrer qu'il avait bien compris la leçon. Et très très tôt, il va vouloir partir en Palestine. Il va vouloir s'installer, et pas du tout pour écrire, mais pour travailler dans un kibbutz.
Alors. Je vais pas dire que c'est la mode, hein, c'est pas oui. Le cas, mais c'est dans l'air du temps que les juifs.
Oui.
Se tourne vers la Palestine. Il n'est pas le premier parmi les intellectuels. Il y a vraiment une attirance qui va se faire. Et lui va vivre cette attirance.
Exactement. Il va même s'abonner à une revue sioniste qui va recevoir chaque mois. Il va essayer de trouver des solutions pour partir.
Daniel, dire que l'Israël de l'époque, ce n'est pas l'Israël de maintenant. Hein. Ça paraît bête ce que je raconte, mais il faut bien le préciser.
Bien sûr, ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais il va vouloir s'installer là-bas et travailler la terre. Voilà, lui, c'est sa grande chose, c'est de travailler la terre, mais comme il est malade, évidemment, il ne pourra jamais y aller. Et il va demander à sa professeure, qui partait souvent en Palestine faire des séjours, de lui parler comme ça. Alors, il écoutait, paraît-il, pendant des heures, cette dame, qui lui racontait un peu la beauté des paysages, la terre qui devenait fertile, etc. Voilà, donc lui, ça lui donnait beaucoup envie. Et il n'a pas écrit vraiment de texte là-dessus. Il a écrit juste dans des lettres, dans des correspondances avec Brod, etc. Et d'autres, son envie de partir.
Voilà. Vous qui avez travaillé sur la femme dans notre vie, Musidora, oui. Vous n'ignorez pas que le père de Musidora était un théoricien socialiste.
Exactement, oui,
socialiste.
Hein. Socialiste, oui. Et qui avait écrit un livre là-dessus,
voilà.
D'ailleurs.
Hein, comment ?
Qui avait écrit un livre là-dessus.
Oui. Et il y a pas mal de courants socialistes, y compris dans les socialistes libertaires d'ailleurs, qui ont été attirés par la Palestine.
Oui, parce que c'était une. À l'époque, en tout cas, c'était une terre qui accueillait tout le monde. Il n'y avait pas de discrimination. Et chacun pouvait cultiver son open terre, vivre de son travail, sans rien demander à personne et tout. Donc, c'était une aventure à la fois aussi sociale, socialiste, on pourrait dire comme ça, et surtout une à la fois individuelle et en même temps collective. C'était les deux qui étaient intéressants.
Dans cette Prague, il vit pas trop mal, Kafka.
Oui, non, il vit pas trop mal. Il gagne sa vie. Il vit chez ses parents, donc il a pas de loyer à payer. Il met les pieds sous la table. Sa mère le sert à dîner ou à déjeuner. Donc il n'y a pas de problème. L'argent n'a jamais été un problème, ni une question même pour lui. Quand il voulait sortir, il payait lui-même ce qu'il avait à payer. L'entrée au cinéma, l'entrée au théâtre, au music hall. Il allait de temps en temps au restaurant, mais très peu avec ses amis. Mais il allait beaucoup au café Arco, où il disait ses textes, où je l'ai dit, mais aussi écouter ses amis qui parlaient. Et il faut savoir que l'école de Prague a été très efficace et très, très importante au début du siècle, parce qu'il y avait un mouvement comme ça, culturel, pictural, littéraire, musical, très important.
Mais il faut dire aussi que le café appartient, c'est une tradition intellectuelle de l'Europe à l'époque.
Bien
hein,
sûr, bien
parce
sûr,
qu'on trouve
vrai.
Ça dans toute l'Europe sûr, de l'Est et à Paris aussi. Il y a les surréalistes, c'est la culture de café.
Voilà, hein, c'est
quand
ça.
Vous lisez Aragon, on est en plein dehors.
Il y avait les librairies aussi en France, qui n'appelaient pas à Prague. Ouais. C'est que beaucoup d'auteurs, avec l'arrivée par exemple de Sylvia Beach ou d'Adrienne Monnier, ont beaucoup fait de textes et de lectures dans les librairies.
C'est pour ça, Daniel, que le monde en Europe a beaucoup changé, parce que dans les librairies intellectuelles on peut se réunir, ou les cafés intellectuels on peut se réunir, ça ne court plus les rues. Et puis, oui, d'accord, il rencontre des gens.
Oui.
Alfred Kubin,
bien sûr,
qui était quand même un sacré peintre,
ouais.
Et qui a déjà un nom à l'époque. Et puis, et surtout, C'est lui qui va écrire le Golem. On va quand même, on peut pas parler de Kafka sans ouvrir une parenthèse sur le
bien
Golem. Hein.
Oui,
on y va, le Golem, c'est quand même un mythe.
Et puis... Alors, c'est quelque chose. C'est de Gustave Meyrinck. Oui. C'est un qui a écrit ce texte. Alors c'est un livre qui va hanter Kafka. D'ailleurs, j'en parle dans. Je fais un petit article, je crois, sur Kafka et le Golem. Il connaissait l'auteur. Kafka connaissait l'auteur et il était fasciné par ce texte qui est en fait que le golem représente une sorte de force matérielle supérieure qui va dévorer ses enfants en quelque sorte. Et donc ça tient du conte, de la fable, oui. Ça tient au coup de l'histoire biblique.
Gustave Meyrinck qui n'est ni juif ni
voilà,
ni tchèque.
C'est
hein.
Ça qui est atteint.
Qu'est-ce qu'il est,
ben, on n'a jamais vraiment su.
Il est viennois.
Il a vécu en Vienne, oui, donc on peut imaginer qu'il était viennois vraiment, mais bon, il a vécu à Vienne, et après il s'est installé un peu en Tchécoslovaquie, il a fréquenté un peu l'intelligentsia à l'école de Prague, mais il était aussi un peu mal vu, parce que c'est un personnage très fantasque, très extravagant, qui ne faisait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais Kafka l'aimait bien, et aimait beaucoup son œuvre.
Il a écrit La Nuit de Valpurgis aussi,
voilà,
c'est
aussi,
ça,
c'est ça
mais c'est un auteur qui est très connu.
Oui, bien d'accord. Sûr, il est connu. Oui,
hein comme il est connu. Donc c'est tout le mythe du golem qui va fasciner
Kafka.
Je vais résumer, puis on va dériver un
tout
petit peu sur le... Voilà. Alors, le golem appartient à la mythologie juive. Il s'agit d'un être artificiel fait de glaise qui est chargé de défendre son créateur. Le mythe se précise à Prague au XVIe siècle. Le golem aurait été conçu par le rabbin Lowe afin de défendre la communauté juive contre les pogroms. Alors, afin de lui donner vie, son auteur a inscrit le mot Emet, vérité, sur son front pour éviter qu'il ne soit autonome s'il suffisait d'enlever la première lettre de l'inscription qui devenait Met, c'est-à-dire mort. Mais le golem est devenu trop grand pour que le rabbin puisse atteindre son front. Il lui demanda alors de lasser ses chaussures, mettant ainsi son front à portée de la main de son créateur, et le golem redevint terre glaise. Alors, Balézi, qu'est-ce que vous en pensez? Après, je vous dirai, moi.
Ah ben oui, c'est une fable, hein,
Oui.
Une fable, voilà, mais c'est passionnant.
Voilà.
En même temps,
c'est très spirituel.
C'est ce que j'ai dit, oui, il y avait un côté spirituel.
Voilà, mais en même temps, c'est très matérialiste.
Mais les deux, la glaise, c'est matériel.
C'est la glaise. Et ça, c'est marrant, je dirais un peu, si j'ai le temps après, ce qu'a dit Camus de Kafka, c'est aussi ça. C'est l'ordinaire, l'extraordinaire, le matériel, le spirituel.
C'est l'ordinaire dans l'extraordinaire et l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà, c'est ça, oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ça.
Et dans ce golem qui appartient, c'est le mythe de l'homme nouveau, quelque part.
Bien sûr, hein, oui, bien sûr.
Et qui traverse toute l'Europe.
Qui va devenir malheureusement.
Et voilà. Qu'est-ce que vous en voulez,
oui, c'est un peu ça, oui, l'homme nouveau, l'homme construit de toutes pièces.
Voilà. Qu'est-ce
ça.
Que c'est dangereux.
Et oui, c'est ça. C'est vrai que c'est très dangereux, mais l'idée est quand même formidable, quand même très intéressante, parce qu'au départ, le golem doit protéger la communauté. Après, bon, ce ne sera pas forcément le cas, mais au début, il doit protéger la... Et donc, il arrive de nulle part, d'une création de l'homme, pour protéger les hommes. Je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant.
Il y a quand même une précurseuse, on ne va pas se dire, mais c'est pas grave, c'est Marie Shelley avec son Frankenstein, qui est aussi un mythe très dangereux.
Qui est à la base de beaucoup de choses.
Bien sûr. Avec des interprétations multiples.
Oui, bien sûr, exactement.
Voilà. On a un chapitre à faire, c'est quand même Kafka et ses amours.
Ah oui, c'est ça.
Je ne peux pas vous laisser partir avec Kafka. Et on va écouter quand même. Merci.
Nous habitions en face d'elle, dans le quartier Saint-Louis. Elle habitait, je me rappelle, aux environs de minuit. Moi, mes cousins, on la regardait en silence à travers les jalousies. Adossée au magasin, elle fumait avec élégance. Nous apprenions nos poésies. Passionnément, nous y pensions à la paix, point de suspension. Qu'elle était bien. La putain posée comme une contrebasse dans les bras d'un artiste. Elle avait l'air de faire des passes dans une chanson réaliste. Moi, mes cousins, en pyjama, au cinéma, nous l'avions prise pour femme. Et son parfum de violette, quand on entr'ouvrait la fenêtre, nous descendait au fond de l'âme. Passionnément, nous y pensions. À la paix, point de suspension. qu'elle était bien toujours blonde. La putain, quand il pleuvait, elle s'abritait sous le kiosque à journaux. Alors comme elle était tout près, je lui jouais du piano à la putain, un peu comme dans Cyrano. Au piano, j'étais Chopin. Sous cette pluie de quatre sous, elle m'imagine être au-dessus, et j'imagine ses dessous. Mes cousins en parlent aujourd'hui en buvant des blancasses. Son réverbère est à la casse, il me reste un peu de pluie. Mais mes cousins, sans le vouloir, sans le savoir, ont tous épousé des putains. Chaque fois que je vais les voir, il y a quelqu'un sur un trottoir qui vient parfumer ma mémoire. Passionnément, nous y pensions. À la paix, point de suspension. Qu'elle était bien, qu'elle était bien. La putain, nous habitions en face d'elle, dans le quartier Saint-Louis. Elle habitait, je me rappelle, aux environs de minuit.
Bah, je vous la chanterai, Monique, un jour promis. Oui, bah, ne refusez pas comme ça. Au 01 43 71 89 40. Il y a quelque chose qui est incontournable lorsqu'on parle de Kafka. C'est bon, il a son œuvre qui est incontournable. Il y a aussi un livre, ce sont les lettres à Milena.
Bien sûr. Alors, Milena Jezinska est une des quatre compagnes amoureuses de Kafka. C'est la troisième. Milena va découvrir absolument et émerveiller une nouvelle de l'écrivain et va vouloir la traduire.
Elle est tchèque.
Elle est tchèque, oui, oui. Elle est la fille d'un homme assez dur, un médecin, psychiatre, et qui va d'ailleurs la faire interner. Et qui, elle est socialiste, militante socialiste, elle est militante féministe également, et journaliste. Et elle aura une importance assez grande, hein, dans le chemin des femmes. Et notamment, elle va connaître une fin tragique à Ravensbrück. Elle va mourir à Ravensbrück en 1944.
Comme quoi, le destin de Kafka est étrange. Oui, c'est quand même très étrange.
C'est ça. Ouais. Alors, Kafka a eu...
Elle est déportée pourquoi, Daniel?
Elle n'est pas juive. Non, elle n'est pas juive, mais pour résistance à Hitler, parce qu'elle était résistante, en
D'accord.
fait.
Hein,
voilà. Elle faisait des tracts, elle avait un journal aussi, elle travaillait dans un journal anti-nazi, évidemment. Et il ne faut pas oublier que la Tchécoslovaquie était occupée par les nazis, et en particulier par l'une des âmes damnées d'Hitler, qui était Heydrich, qui était un homme absolument ignoble, qui adorait tuer, qui adorait la mort. Et qui était le Gauleiter de la Tchécoslovaquie. Alors, les amours de Kafka, c'est un grand sujet. D'ailleurs, je l'ai découpé dans mon livre en plusieurs fois, comme si c'était un feuilleton. Il y a d'abord, alors, outre quelques petites aventures qui n'ont pas beaucoup d'importance, le premier amour de Kafka, c'est une jeune femme, qui s'appelle Felice Bauer, qu'il rencontre... qui est une lointaine cousine de Max Brod, et qu'il rencontre justement chez Max Brod en mois d'août. Je crois que c'est 1906. Et il fait connaissance avec elle, et Kafka avait cette particularité de, quand il rencontrait quelqu'un, d'écrire après sur lui, homme ou femme, et il disait beaucoup de mal. Physiquement, elle n'est pas belle, elle a un vilain nez, des oreilles décollées, etc., une chevelure incertaine, etc., mais ça n'empêchait pas de l'aimer. C'est-à-dire qu'il pouvait vous décrire comme quelqu'un de très laid ou de très antipathique, et en même temps dire « mais je l'aime ». Vous voyez, c'était un peu ça, Kafka. Et Kafka, avec Felice, va tomber follement amoureux d'elle, et il va avoir une correspondance qui va durer très longtemps, avec plusieurs milliers de lettres, hein, quand même. Malheureusement, on n'a pas les retours de Felice, on n'a que les lettres de Kafka. Et ils vont se fiancé à deux reprises. Et à chaque fois, Kafka va, les deux fois, il va annuler les fiançailles. Parce que, au dernier moment, et c'est ça qui est intéressant, et en même temps qui fait que le personnage est assez pathétique, c'est que il est amoureux d'elle, profondément, il l'aime. Il n'est pas, comme on l'a dit, impuissant ni rien, puisqu'il avait des relations sexuelles avec des prostituées, bon, ça se passait pas mal. Donc, c'est pas là-dessus que cela se joue sur son amour de la littérature. Il pense que s'il vit avec elle, que s'il crée fonde une famille et qu'il ait des enfants, eh bien, il ne pourra pas écrire comme il le veut. Et lui, pour lui, l'écriture est la chose la plus importante au monde. Donc, elle accepte tout. Felice est une femme qui a tout accepté, sauf qu'au dernier moment, il annule une deuxième fois. Et là, bon, elle en a un petit peu assez. Et finalement, elle va faire sa vie avec... elle va partir aux États-Unis, elle va faire sa vie, elle va avoir des enfants. Bon, voilà. Et de temps en temps, on allait l'interviewer pour savoir comment était Kafka. Bon. La deuxième jeune femme, c'est Julie Vizorek, qu'il rencontre dans le sanatorium.
Il n'y a pas de photo.
C'est la seule. Felice. Il y a une photo.
Felice, il y a une photo. Voilà. Milena, on connaît son visage. Voilà. Dora, on connaît son visage. Voilà. Et c'est Julie, il n'y a pas de photo.
Non, il n'y a pas de texte, pas D'accord. de photo. Elle est restée. Elle était simplement connue comme étant une des compagnes de Kafka. Alors Kafka l'aime beaucoup parce qu'ils sont tous les deux dans ce sanatorium pour se reposer. La maladie de Kafka s'est déclarée, donc il a besoin de repos.
Elle se déclare tôt, sa maladie ou pas ?
Non, pas tellement, 1915, je crois, si ma mémoire d'accord. est bonne. Mais il va vraiment de plus en plus décliner. Et quand il passe un moment avec elle, dans ce sanatorium, il y a une chose qui les réunit, c'est le rire. Ils rient beaucoup ensemble, Kafka le dit, je ris beaucoup avec elle, etc. Et elle devient follement amoureuse de lui. Le problème, c'est que Kafka, il là encore, ne peut pas s'engager à cause de cet élément de l'écriture qui fait que seul compte le fait d'écrire.
C'est toute sa vie, ça. C'est toute sa vie. C'est le rapport à son père, mais voilà. aussi le rapport aux femmes.
Voilà, c'est ça. Et pour lui, là, l'écriture passe avant tout. Et il lui demande de comprendre. Et évidemment, elle ne comprendra pas. Et elle lui écrit des choses terribles. Et on pense qu'elle a terminé dans la folie, malheureusement. Alors, est-ce dû à Kafka en partie, mais pas que, mais
quand,
en tout
quand
cas...
Quand vous dites « on pense » et « on ne sait pas »,
ben, on ne le sait pas vraiment, il n'y a pas d'explicitation. On sait qu'elle est morte dans un asile psychiatrique.
Elle est morte dans un asile, d'accord,
voilà.
Ok.
Voilà. Et la troisième, c'est donc Milena Jasinska, qui vont passer peu de temps ensemble. Une fois qu'elle a traduit ses nouvelles, elle vient le voir. Il se voit au début peu de fois, 3-4 fois. Lui va la voir. Et à un moment donné, ils ont un week-end, il le dit lui-même, ils ont un week-end... où ils ne sortent pas de la chambre d'hôtel. Bon. Et elle s'est assez vite vantée qu'elle lui a tout appris en matière d'amour physique. Une autre chose intéressante pour revenir à Felice, c'est qu'il écrivait sur sa relation avec elle et il n'a consommé, entre guillemets, leur relation que vers la fin, très tardivement, en disant « j'ai enfin connu Felice ». On sait ce que ça veut dire.
Ce qu'il faut lire, c'est la correspondance. Ça, c'est publié, ah, oui, la correspondance de Milena avec
Kafka. Hein. C'est des lettres absolument. Voilà, lettres voilà. à Milena, ça s'appelle. C'est des très grandes lettres esthétiques et littéraires. Et le dernier amour, qui est le plus complet, finalement, et le seul vrai amour dans notre.
Qui est plus bref.
Acception à nous,
un an et demi. Hein.
Dora Diamant, qui est un très beau nom. Dora Diamant, qui est une jeune juive militante sioniste, elle aussi, qui a 19 ans. D'accord. Kafka en a presque 40. Et elle est vivante, elle est joyeuse, elle rit tout le temps. Et elle va apporter beaucoup à Kafka. Notamment, elle va lui apporter la joie de vivre. Ils vont s'installer à Berlin. Et c'est là où Kafka dit « Ai-je vu le Kid ?» de Chaplin, dans une de ses lettres.
Ah, c'est ça, oui.
Il dit, voilà, bon. Ouais. Et donc, il va vivre heureux avec elle, malheureusement. C'est trop tard, il est très malade, la maladie l'envahit petit à petit, il ne peut plus parler, donc il doit s'exprimer par la plume, encore une fois, pour les petits mots et tout. Il va au sanatorium, et quand il sait qu'il va mourir, quand il sait vraiment que là, il ne peut plus respirer, il demande dans un dernier acte d'amour à Dora, de lui poster une lettre à ses parents. Ouais. Et elle a un doute. Alors, au milieu du gué, du chemin, ouais. elle ouvre la lettre, il n'y avait rien. Et en fait, il avait éloigné parce qu'il ne voulait pas qu'il la voie mourir.
Ah, génial.
Qu'elle le voit mourir, je veux dire.
Très, très, très
c'est,
beau.
C'est assez beau. Et donc, quand elle revient, il est évidemment...
Elle meurt très tard, Dora.
Oui, assez tard. Après, elle part en Israël.
C'est ça.
Et elle a fait pas mal de choses. Et elle a vécu dans l'esprit, dans le souvenir de Kafka. Parce qu'apparemment, toutes les femmes et tous les hommes qui croisaient le chemin de Kafka en étaient marqués à vie. Quoi.
Il faudrait faire une anthologie de l'humour noir, de tous les écrivains qui ont été en sanatorium.
Ah oui, ça, c'est
de l'époque.
C'est vrai qu'il y en a un paquet.
De Thomas Mann à René Crevel, en passant par Paul Éluard, en passant par Kafka, etc. La tuberculose a été quelque chose de redoutable.
Et lui, il est vraiment mort de ça. Terrible. Il ne pouvait pas s'en sortir. C'est terrible. Il aurait pu vivre beaucoup plus, écrire encore de grands chefs-d'œuvre, et malheureusement. vraiment... Mais ce qu'il a écrit déjà, ça reste vraiment dans la littérature comme étant un sommet, quand même.
Il a un ami du départ à la fin, c'est Max Brod.
Max Brod, qui est un homme vraiment qui s'est dévoué à son ami Kafka, sachant qu'il était un génie. Et quand Kafka, déjà très malade, lui demande de tout brûler, il y avait quelques nouvelles qui étaient parues dans la presse locale, enfin, de Prague, mais pas son œuvre romanesque, par exemple. Et donc, il a préféré trahir sa parole envers son ami pour que l'humanité puisse découvrir l'œuvre. Sinon, on n'aurait pas connu Kafka.
Moralement, c'est intéressant.
Voilà, c'est un choix cornélien.
Le dilemme cornélien. Alors voilà, là, qu'est-ce qu'on fait en pareil
voilà,
cas
c'est ça.
Dans ces années-là, donc on est en 24, c'est ça, oui. disons, on va prendre 20, 22, 3. Qu'est-ce qui se passe politiquement en Tchécoslovaquie ?
En Tchécoslovaquie, il y a une succession de régimes, malheureusement. Alors, il y a l'indépendance de la Tchéquie, hein, de la Tchécoslovaquie, à partir du début des années 20. Et il va y avoir une suite de gouvernements plus ou moins démocratiques, plus ou moins socialistes. Quand les Allemands vont envahir la Tchécoslovaquie et mettre Heydrich, la population va accepter ça relativement calmement. Voilà. Population non-juive, évidemment. Quoi.
D'accord. Il s'intéresse à tout ça, Kafka, ou pas ?
Il s'intéresse à ses coréligionnaires, beaucoup aux juifs, il s'intéresse au Talmud, il connaît très bien le Talmud. D'ailleurs, on pourrait peut-être même évoquer l'œuvre de Kafka à travers le sous-texte talmudique. Ce serait intéressant un jour de s'y pencher, ce serait très, très long, mais ce serait intéressant car Kafka aimait beaucoup le Talmud et la Kabbale. La Kabbale aussi, il était très intéressé. C'est un jeu d'esprit pour lui, très intéressant, très fécond.
Oui, c'est pour ça que chez Benjamin aussi, parce que déterminer si vraiment il y a une croyance chez Benjamin, vous pouvez y aller, c'est très difficile. C'est j'ai l'impression que chez Kafka, c'est ça.
C'est ça.
Est-ce qu'ils sont pas. Alors là, c'est quelque chose que je ne connais pas, le texte de la Kabbale. Je ne sais pas, vous connaissez
la Kabbale.
D'accord,
peu, oui.
Ok. Est-ce que c'est pas le langage qui les intéresse
Oui, évidemment. Ce qui se cache derrière les mots, en fait.
Voilà.
C'est ça, oui, c'est ça.
C'est ça,
la Kabbale. Hein. Ce sont des signes kabbalistiques, on dit. Hein. Des signes, et derrière ces signes, il y a une autre explication. Et c'est ça qui intéresse. Et la Kabbale, c'est quelque chose auquel il faut se consacrer longuement pour pouvoir comprendre, parce que c'est très compliqué. Lui aime beaucoup le Talmud, parce qu'il disait que c'était l'exégèse du texte biblique. Et pour lui, c'était une manière de pouvoir dialoguer, discuter aussi avec ses amis.
Qu'est-ce qui a été bien adapté au cinéma de Kafka ?
Alors, il y a eu principalement trois films.
Ouais.
Il y a eu Le procès de Wells, qui est
c'est
le
celui Wells, hein, ou c'est celui Wells.
En 62, qui est vraiment un chef-d'œuvre. À tel point, d'ailleurs, que il disait... Wells, que c'était l'auteur duquel il était le plus proche, et dans le film, il introduit des images subliminales de la Shoah, qui n'appartiennent pas dans le livre, évidemment, mais quand on est bien attentif, on voit des images de la Shoah, des camps de la mort. Donc pour dire que Wells est vraiment comparé Kafka à la modernité contemporaine. Hein, il y a ce film-là, donc il est vraiment très beau. Il y a un film très méconnu de Michael Haneke, cinéaste allemand qui a fait Amour, Caché, etc. Et qui est un Funny Games. Et donc, il adapte le château. C'est assez intéressant, c'est très froid, très épuré. Et avec cette idée, pourquoi le l'arpenteur n'arrive pas à franchir les portes du château, etc. Et le troisième, c'est l'Amérique. Un chapitre de l'Amérique, qui est un des trois romans de Kafka, mis en scène par Daniel Huet et Jean-Marie Straub, qui viennent d'ailleurs de mourir, il n'y a pas longtemps, qui était un cinéaste d'avant-garde,
plus que
underground, c'est un cinéaste d'avant-garde, qui mêle la politique, la poésie, la musique, enfin bon, c'est un cinéaste très intéressant, mais qui était vraiment, qu'on ne passait pas beaucoup dans les salles de cinéma, c'est un cinéaste assez exigeant, bon, et d'ailleurs, c'était marrant, parce que je l'avais rencontré à plusieurs reprises, Jean-Marie Straub, et il disait, je lui posais la question, quel est votre cinéaste préféré ? Il disait John Ford, qui est le cinéaste même du divertissement, bon, qui est un très grand cinéaste, évidemment, mais qui est un cinéaste du divertissement. Et lui adorait John Ford parce que c'était l'opposé total de son cinéma. Et il a fait une très belle chose avec l'Amérique aussi. Il y a eu des références à Kafka de Steven Soderbergh.
C'est souvent lorsqu'on trouve des cinéastes difficiles, Godard fait le même coup. Hein, quand on lui demande quel est son cinéaste, ou etc., il vous cite un cinéaste de divertissement, etc.
Voilà, c'est
ça, c'est une... Mais j'ai fait appel à votre mémoire de...
Oui.
de alors, c'est, Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Ah. C'est dans quel film de, sur Kafka où il y a une immense porte qui fait 3 mètres et un tout petit bonhomme. C'est dans le procès.
C'est dans le procès.
Voilà, magnifique plan.
Les plans magnifiques, les magiques de Wells.
Là aussi, c'est pas le monde qui écrase le. On va se réécouter un Reggiani, puis on va conclure. Avec et puis, j'aimerais quand même lire ce qu'a écrit. Bon, c'est vous qui citez Camus.
Oui, bien sûr. Ah,
d'accord.
Plaisir,
et je trouve que la réduction est très. Oui. La concentration est très bien. Oui. Merci, Monique.
C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi ta porte. Io non ne posso proprio più. Se ti sei aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voleur équilibriste, maréchal des logis, comédien braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des dames, oui j'ai, je joue bien mal aux femmes, tu le sais. Depuis que j'ai des chercheurs d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi ta porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'Italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre Dieu là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière c'est un. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non le... E che volete?
Et merci Monique 01 43 71 89 40. Et bon, on a fait ce voyage à Prague sur les traces de Kafka, Marinette de l'année et Daniel Chocron, en compagnie de Serge Reggiani. C'est pas n'importe
c'est
quoi.
Bien, c'est bien, bien,
c'est bien. Oui, non, je vais vous lire le. Bah, c'est vous qui le citez, alors je vais vous connaissez le passage mieux que moi. C'est Albert Camus. Hein, c'est, voilà. La métamorphose figure certes. Certainement l'horrible imagerie d'une éthique de la lucidité. Mais c'est aussi le produit de cet incalculable étonnement qu'éprouve l'homme à se sentir la bête qu'il devint sans effort. C'est dans cette ambiguïté fondamentale que réside le secret de Kafka. Ces perpétuels balancements entre naturel et extraordinaire, l'individuel et l'universel, le tragique et le quotidien, l'absurde et le logique se retrouvent à travers toute son œuvre et lui donnent à la fois sa résonance et sa signification. Ce sont des paradoxes qu'il faut énumérer, ces contradictions qu'il faut renforcer pour comprendre l'œuvre absurde. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est cette complicité secrète qui, au tragique, unit la logique et le quotidien. Voilà pourquoi, sans ça, le héros de la métamorphose est un voyageur de commerce. Voilà pourquoi la seule chose qui l'ennuie dans la singulière aventure qui fait de lui une vermine, c'est que son patron sera mécontent de son absence. Des pattes et des antennes, du pouce en échine s'arc, des points blancs parsèment son ventre, et je n'irai pas que cela ne l'étonne pas, l'effet serait manqué. Mais cela lui cause un léger ennui. Tout l'art de Kafka est dans cette nuance.
Oui, c'est ça.
Terrible, hein, oui. Toujours ce retour au quotidien.
Oui, c'est ça. Alors, l'animalité chez Kafka est importante parce qu'il a donné beaucoup de portraits d'hommes ou animaux, ou d'animaux hommes, et d'ailleurs lui-même disait qu'il avait une part animale très très importante et qu'il avait plus confiance aux animaux qu'aux hommes. Par exemple, on connaît le texte de l'Académie avec le singe qui est enfermé et qui veut devenir un homme. Bon, voilà. Il y a Joséphine et le peuple des souris. Il y a plein de nouvelles où l'animal a un rôle extrêmement important chez Kafka.
Ben, c'était un plaisir.
Merci
c'était
beaucoup de m'avoir accueilli.
Attendez, je rappelle, la lucarne des écrivains, il faut dire où c'est. Hein, allez-y.
Une librairie maison d'édition. Alors, c'est 115 rue de l'Ourcq, Paris 19e. Vous pourrez y aller parce que Armel Louis, qui dirige cette librairie et cette maison d'édition, est quelqu'un d'absolument charmant, qui adore discuter, qui adore parler, qui connaît très bien la littérature. Et j'ai pu écrire 3 livres dans sa maison d'édition et j'en suis fort aise. Et c'est quelqu'un qui est vraiment fait beaucoup pour la littérature.
Donc à Prague, sur les traces de Kafka, faut féliciter Marinette de l'année.
Aussi, hein, je n'y manquerai pas, oui.
Hein, il n'y a aucun problème. Et puis quand vous aurez fini, monsieur Daniel, votre Prévert, oui. Bon, on sera un petit voyage sur Prévert.
Avec plaisir, merci.
On remercie Monique, bien sûr. Merci. Hein. Merci Monique, voilà.
Voici les animations programmées à la librairie Publico pour le mois de décembre. Comme chacun sait, la librairie Publico, c'est 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris, métro Oberkampf, République ou Fille du Calvaire, et pour ceux qui aiment le bus, c'est 91 ou 96. La toute première animation de ce mois de décembre, ce sera le samedi 3 à 16h. Le groupe Segui de la Fédération Anarchiste propose une rencontre-débat autour du livre de Virginie Dupérou, Amiante et mensonges, notre perpétuité, journal de Paul et Virginie. Bien que sa toxicité soit connue depuis le début du XXe siècle, l'amiante est responsable de plus de 10 décès tous les jours en France. C'est donc le sujet du livre de Virginie Dupérou et elle viendra le présenter ce samedi 3 décembre à 16h à la librairie Publico. Le samedi 10 décembre à 16h, la librairie vous propose de découvrir le 3e volet de Frérot Frangin. C'est un texte de Thierry Maricourt, illustré par Nathalie Dieterlé. Ce 3e opus s'appelle Hôtel Bestiole, Hôtel Bagnole. Et Thierry Maricourt sera présent ce samedi 10 décembre à 16h pour vous présenter son ouvrage. Mercredi 21 décembre, c'est une projection débat proposée par Ciné Commune. Le film s'appelle Les Médicamenteurs, c'est le travail de Stéphane Aurel, Annick Rodolfi et Brigitte Rossigneux. Par une enquête claire et pédagogique, Les Médicamenteurs vous invitent dans le monde très opaque de l'industrie pharmaceutique et du médicament. Un monde pas très réjouissant, mais dont il vaut mieux être informé. Ce sera donc à la librairie Publico, 145 rue Amelot, mercredi 21 décembre à 20h. Pour information, la librairie Publico sera fermée les 24 et 31 décembre, mais elle est ouverte tous les autres jours de la semaine, du mardi au vendredi de 14h à 19h30, le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 14h à 19h30, fermée le lundi.
Ça fait rien, c'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas. N'en fait qu'à sa tête à chaque fois. Chat s'en fout du camp, dira-t-on. Rentre quand il veut à la maison. Chat fait du bien quand il ronronne. C'est trop chou quand chat s'abandonne. Chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même c'est parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat fait le gros dos quand il a peur du chien que chat porte pas dans son cœur. Les aboiements, chat n'aime pas trop. Les griffes, chat les sort quand il faut. Chat ramène toujours des trophées. Oiseau souris, chassé, chassé. Quand chat va pas, qu'il est fâché. Chat donne pas envie de s'effroter. Chat, oh c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat pose ses pattes sur mon clavier. Pour écrire chat, c'est pas gagné. Mais pour chaparder, s'échapper, c'est chat le plus fort du quartier. Chat d'or au chaud sur le capot de mon char à nous dans mon chapeau. Quand chat s'endort sur mes genoux, chat me fait comme du bonheur partout. Oh chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Tout ce qu'il veut de son humain, car c'est moi qui lui appartiens. C'est chat qui choisit, c'est son choix. Ça va, il me laisse habiter là, dans ce monde où les souris dansent. Chat se fout bien de tout ce qu'on pense. Qu'est-ce qui nous attache, lui et moi? Je sais pas, mais je donne ma langue au chat. C'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Chat, oh c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et vice versa. Pardon, versa. Versa, oui, versa.
Miaou.
N'allez pas croire, vous les croyants, que nous autres les mécréants, on n'aimerait pas quitter la vie en trottinant d'un paravis, cœur léger et sans un radis, sur les chemins du paradis. N'imaginez pas qu'on se réjouisse à l'idée de ces vers qui glissent et se nourrissent de nos histoires dans les replis de nos mémoires. Ces hordes d'asticots qui grouillent, nous aussi, ça nous fout la trouille. Priez pour nous, pauvres athées, priez pour nous, les pas gâtés. On a les foi, mais pas la foi. Pareil qu'on a pas d'âme. Sans autre forme de procès, Dieu nous interdit l'accès aux voluptés de l'espérance. En dans d'éternelles vacances. Il a réservé ses dimanches à ceux qui montrent patte blanche. Se foutant du quart comme du tiers, il a dessiné la frontière. D'un côté, tous les bienheureux, promis au royaume des cieux. De l'autre, allez savoir pourquoi, toute une armée de types comme moi. Priez pour nous pauvres athées, priez pour nous les pas gâtés. C'est Dieu qui nous tourne le dos, qui nous fait pas de cadeaux, qui dit qu'on a pas d'âme. Si c'est ainsi qu'est vraiment Dieu, un petit fonctionnaire besogneux, un boutiquier fade et mesquin, qui dit que pour garder son pain, il faut savoir donner les miettes, tomber à côté de l'assiette. Si l'Éternel est à ce point, si misérablement humain, s'il est à notre piètre image, jusque dans l'idée du partage, y a vraiment rien à en tirer. Je suis athée, je suis atterré. Eh bien, si Dieu croit pas en nous, on s'en fout pas mal, mon amour. Je brûle des cierges à tout essaim, bras en croix dans un lit moelleux. Nous deux, on est très pieux. Je ne me fie qu'à tes instincts, et quand tu dis que tu crois en moi, c'est le désir qui croit en moi. Je suis à tes pieds, et je n'ai Dieu que pour tes yeux. Ce qui est pris n'est plus à prendre, et notre avenir ne peut attendre. Nous les athées, nous les sans ciel, on n'espère plus le bonheur factice de leurs cieux d'artifice. Nous, on ne croit qu'à l'essentiel, et pour honorer notre foi, on étanche notre soif. On s'abreuve du vin d'ici plutôt que de l'eau de là.
Jéhovah, Jésus, Ramakrishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, bref, il y avait le choix. Il y avait Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Il y avait Jéhovah, Jésus, Ramakrishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, il y avait le choix. Il y avait Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Oui, mais moi Dieu, moi je n'ai Dieu que pour toi. Moi je n'ai Dieu que pour toi, et pour toi là-bas aussi dans le fond, et toi le petit là, dans la chapelle de tes Sixtines, je m'y perds mon lapin,
Accueille-moi contre ta poitrine, parmi tes seins, où coule le lait et le miel. C'est la terre promise, laisse-moi porter jusqu'à l'autel ta petite valise. Yahvé Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Rama, Bouddha, Yahvé le choix, Yahvé Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Oui, mais moi, Dieu, Dieu, oui, je n'ai Dieu que pour toi. Et Dieu, Dieu, oui, je n'ai Dieu que pour toi. Selon cinq, laissé de la passion, j'ai mis au clou, depuis le jour de ton apparition, tous mes gourous. Et j'ai dit stop, stop, arrêt Krishna, un coup de poudre, arrêt curé, un baril de super croix, and walking on, walking on the moon. Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé, Chouakwaya, Yahvé, Mahomet, Allah, Zarathustra, puis moi. Mais moi, Dieu, moi je n'ai Dieu que pour toi. Moi, Dieu, je n'ai Dieu que pour toi. Zélé comme l'ange du paradis, je prie encore mieux avec toi toutes les nuits, je deviendrai pieux. Je deviendrai pieux. Je deviendrai pieux. Oh Yahvé Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé choix quoi. Yahvé Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Yahvé Jéhovah, Jésus, Rama Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé choix quoi. Yahvé Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Moi, Dieu, je n'ai Dieu que pour toi.
Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter les pendus au couchant d'une autre après-guerre. Et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne.
Amis
dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre
dessus
nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds.
Je crie
pour me défendre
à moi
les étrangers. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie, et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs.
Amis,
amis,
dessous la cendre,
le feu
va tout brûler.
La nuit
pourrait descendre
dessus. Je crie pour la défendre.
À moi,
les étrangers.
La vie est bonne à prendre.
Et belle
à partager.
Amis,
dessous la cendre.